OK, 15h49, comme je vous le disais en début d'émission, c'est une journée très, très fertile en information. Juste dans les dernières minutes, trois conférences de presse majeures, celle de Marc Bergevin, celle de Valérie Plante, mairesse de Montréal, et celle de Caroline Proulx, ministre du Tourisme. On va faire le point là-dessus avec Philippe Quentin. D'abord, on va commençons par la Chine. Ça, c'est une grosse nouvelle. Ce serait une grosse nouvelle en temps normal. Donc, l'héritière de la grande compagnie Huawei, la grande compagnie nationale en Chine de télécommunications, qui a perdu sa cause en Cour suprême de la Colombie-Britannique.
Oui, tout à fait. Elle s'appelle Meng Wanzhou. Elle avait été interceptée à l'aéroport de Vancouver le 1er décembre dernier. Patrick, tu te souviens, tout de suite, la Chine a vivement protesté contre la décision canadienne. Pourquoi les autorités canadiennes l'ont interceptée? C'est que la compagnie qu'elle représente est soupçonnée d'avoir enfreint l'embargo contre l'Iran. Donc, avoir essayé d'obtenir des prêts, notamment auprès d'une institution bancaire, la HSBC, de façon à pouvoir, bon, il y a toute une tournure de fric à travers tout ça, d'argent d'un milliard de dollars. Et là, la grande question qui se posait, c'est à savoir, est-ce que ce dont elle est soupçonnée, est-ce que c'est un crime également au Canada? Si c'est un crime au Canada aussi, potentiellement, si elle était trouvée coupable, alors là, on peut l'extrader aux États-Unis où c'est aussi un crime. Parce que pour extrader quelqu'un vers un autre pays pour que cette personne-là y soit jugée, il faut que l'acte dont elle s'est rendue coupable, cette personne-là, soit un crime dans les deux pays qui sont concernés. Alors, c'est ce sur quoi la juge en Colombie-Britannique avait à se prononcer aujourd'hui, une femme d'expérience, elle est dans le domaine légal depuis 40 ans. Mais derrière toute cette décision-là, il y a un côté humain qui est extrêmement important, et c'est celui des deux citoyens canadiens qui ont été arrêtés en Chine après l'interception de Mme Wanzhou à Vancouver, en mesure de représailles par le gouvernement chinois. On se souvient très bien, Michael Kovrig, Michael Spavor sont encore incarcérés dans des conditions qu'on imagine extrêmement difficiles, là, selon des rapports également qu'on a obtenus au fil des derniers mois. Et eux, c'est sûr que si elle avait pu retourner en Chine aujourd'hui, Meng Wanzhou, si la juge avait décidé que ce processus d'extradition-là, était non fondé, et puis qu'elle pouvait retourner en Chine, ben, ça aurait certainement facilité leur libération. Mais là, avec ce qui vient de se produire aujourd'hui, ça ne sera pas le cas.
Philippe, pour dire les choses simplement, notre système judiciaire a, dans sa pleine indépendance, émis un mandat d'arrestation contre Mme... comment ça s'appelle?
Wanzhou.
Les policiers l'ont arrêté. Ce n'est pas le gouvernement canadien, personnellement, qui a dit « Hey, on va faire suer les Chinois, on va l'arrêter ». Le processus suit son cours. Elle est emprisonnée dans sa mansion, de Vancouver, qui coûte, je pense, 8 millions. En guise de représailles, la dictature chinoise a arrêté, pour des raisons politiques, de vengeance, deux diplomates canadiens et les a sacrés en prison. Il y en a un à qui on ne donne même pas ses lunettes, qui est perdu dans le noir dans sa prison. C'est la différence entre les deux pays. OK, parle-moi de Jason Kenney, premier ministre de l'Alberta.
Bon, on sait que les relations entre le gouvernement fédéral et le gouvernement de l'Alberta sont toujours très difficiles. Et on l'a vu notamment combien les libéraux fédéraux ne sont pas appréciés en Alberta. On l'a vu aux dernières élections fédérales. Mais là, est-ce que le hockey pourrait servir de rapprochement? Parce que tu sais qu'hier, Gary Bettman a dit qu'il y aurait potentiellement un retour des activités de la Ligue nationale de hockey et que deux villes seraient choisies pour accueillir des matchs. Edmonton veut être une de ces deux villes-là. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a encore les règles de quarantaine obligatoires au Canada. Quelqu'un qui arrive des États-Unis là, doit se soumettre à une quarantaine de 14 jours. Et donc, ça pose un problème pour accueillir des matchs à Edmonton. Alors, le gouvernement de l'Alberta demande au gouvernement Trudeau une exemption, un peu comme celle qui a été annoncée aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, vendredi, on a dit, si vous êtes un athlète professionnel et que vous devez venir aux États-Unis, vous êtes exempté. Vous n'avez pas besoin de faire de quarantaine. Okay. Alors, on va voir comment le gouvernement canadien va réagir à cette demande du gouvernement de l'Alberta.
Philippe, résume-nous ce qui a été dit dans le point de presse de Caroline Proulx, la ministre du Tourisme.
Ben, on va avoir plus de détails tantôt, mais en gros, là, il y a une réouverture des campings, des marinas le 1er juin. On aura les détails là, sur exactement comment ça va se passer au cours des minutes qui vont suivre. Je sais aussi que les chalets vont rouvrir, si vous avez une location de chalet, mais ça va être limité à un genre d'unité familiale. Là. Et une unité familiale, semble-t-il que c'est 5 personnes. Alors, on va voir comment tout ça va se composer avec les détails qui vont être connus encore davantage là, au cours des prochaines minutes, mais il reste pour moi qu'il y a clairement une ouverture.
Point de presse de Marc Bergevin, est-ce qu'on a appris des grandes choses?
Ben, dans le moment, selon ce que je vois, ça semble assez mince. Je pense que ça se résume un peu à « avec Carrie, tout est possible ». Alors, on a déjà entendu ça. Mais la grosse question, bien sûr, c'est Max Domi qui souffre du diabète. Est-ce qu'il pourrait jouer? Ouais. Romanov, qui est le grand espoir de l'équipe, est-ce qu'il pourrait jouer? Kotkaniemi, qui a été blessé avec le Rocket de Laval, est-ce qu'il pourrait jouer? Tous ces dossiers-là demeurent en suspens, puis on va en parler plus à fond avec notre ami Martin McGuire autour de 16h25.
Et je pense qu'on a découvert c'était quoi le plan. Le plan, c'est de se faufiler en série à la faveur d'une pandémie.
Ouais, c'est ça.
OK, merci Philippe. On te laisse aller. On accueille Annie Guillemette de Cogeco Nouvelles. Salut Annie.
Bonjour Patrick.
OK, point de presse aussi de la mairesse Valérie Plante.
Oui, parce qu'on se prépare au 1er juillet du côté de la ville. On se prépare même, Patrick, on pourrait avoir à aider plus de 300 familles qui pourraient se retrouver à la rue après les déménagements du 1er juillet. Donc, on a augmenté les équipes. On pense que ça pourrait coûter à peu près 5 millions de dollars en hôtels, en entreposage. On va demander, bien sûr, à Québec, d'essuyer la facture si c'est possible. Donc, un guichet unique pour ceux qui se cherchent toujours un loyer à l'heure où on se parle, le 311 à la Ville de Montréal. Bien sûr, Valérie Plante a eu à répondre à des questions à propos des fameux corridors sanitaires qui cassent les pieds de beaucoup de gens qui veulent se stationner, des gens à mobilité réduite. On a demandé avec les déménagements qu'est-ce qu'on va faire. Elle a dit, vous savez, on est bon avec les entraves, ça devrait aller, mais on n'exclut pas de faire des changements. On écoute la mairesse.
Oui, des ajustements seront faits dans la mesure où, dont on va voir à la façon dont ça évolue. Mais je tiens à dire qu'il n'y a pas d'improvisation ici dans la mesure où la santé publique est derrière nous, considère qu'on fait la bonne chose, qu'à Montréal, la distanciation, c'est difficile, que c'est une bonne façon également d'encourager les artères commerciales locales. Et pour tous les plans, tous les tracés, tous les plans ont été approuvés par le Centre de coordination des mesures d'urgence avec des critères de sécurité objectifs.
Bien sûr, il fait chaud. On est en pleine canicule à Montréal. Donc, la mairesse a rappelé que les jeux d'eau ouvrent graduellement. Bien sûr, on tente de régler les problèmes. Pas de centre d'achat, pas
Mais pas les piscines.
Pas les piscines.
Les jeux d'eau, là, donc les pataugeoires pour enfants.
C'est ça. Il y aura aussi des îlots qu'on appelle de fraîcheur, donc de la bruine qui est lancée comme ça dans les airs pour que les gens puissent se rafraîchir. Il va en avoir 10 dans la ville.
Est-ce que les grands peuvent aller dans les jeux d'eau?
Je pense que oui.
Pas sûr, moi. Il me semble. Dans mon souvenir, il y a comme un âge limite. Ça.
C'est, ben là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses d'élastique.
Accompagné d'un enfant, peut-être.
Ah, ça, c'est bon. Allez chercher vos voisins.
OK, parfait. Merci. Mais les piscines, n'ont pas de nouvelles, hein, par contre?
Non, ça, c'est vraiment les autorités sanitaires qui vont décréter la réouverture des piscines.
Merci, Annie Guillemette. OK, on va s'arrêter pour aller au bulletin de nouvelles, faire une petite pause commerciale. Au retour, on parle avec Dr. Marie-Michèle Bellon, intensiviste affectée à l'unité COVID de l'hôpital Notre-Dame. Va nous raconter c'est quoi, en ces temps de canicule, se promener en habit d'anti-COVID et aussi... elle va nous parler du dur travail des préposés aux bénéficiaires.